grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Pourquoi voyager à l'heure du tourisme de masse, des destinations prétendument originales et mises en scène ad nauseam sur Instagram? Pourquoi voyager à l'autre bout du monde quand certaines voies vertueuses vous incitent à boycotter les voyages en avion? Voyager est-il devenu l'un des plus tristes plaisirs de la vie, pour paraphraser Madame de Staël? Qu'est-ce qui pousse les voyageurs à partir vers un ailleurs pas toujours à la hauteur du fantasme? Qu'est-ce qu'alors que cette grande affaire qu'on appelle le voyage, se demande l'un de nos invités, Cédric Gras, brillant écrivain voyageur dans la lignée d'un Sylvain Tesson. Pourquoi voyager encore et toujours en 2019? Avec nous également les journalistes Ismaël Khelifa et Alexandra Lévesque et l'écrivain très drôle Julien Blanc-Gras. Dites-nous pourquoi vous voyagez, quels sont les voyages de votre vie, les destinations qui vous ont transformé en profondeur. Dites-nous également pourquoi vous détestez voyager et pourquoi vous préférez rester tranquillement chez vous pendant les vacances. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur l'appli France Inter. Et on attend notre ami Thibaut de Saint-Maurice, coincé sur la ligne 6 du métro parisien et qui nous proposera tout à l'heure une petite philosophie de la vie quotidienne consacrée au voyage. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Cédric Gras.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et vous avez publié un très bon livre chez Stock, Saison du Voyage. Bonjour Ismaël Khelifa, en duplex de Marseille.
Bonjour.
Bienvenue. Journaliste, écrivain, co-présentateur de l'émission Échappée Belle sur France 5. Bonjour Julien Blanc-Gras.
Bonjour.
Écrivain, vous avez notamment publié les très réjouissants Touristes et Paradis, disponibles au livre de poche. Bienvenue Alexandra Lévesque.
Bonjour.
Journaliste talentueuse, écrivain, vous venez de publier Les autres fleurs font ce qu'elles peuvent chez Sable Polaire.
Ce sera le 21 août.
Le 21 août. Exactement. À la rentrée littéraire. Et cet été, au mois d'août, on pourra découvrir sur France 5 votre série documentaire absolument formidable, Drôle de ville pour une rencontre. Racontez-nous le principe en quelques mots.
Alors, le principe, c'est de l'immersion. C'est-à-dire que je vais m'installer pendant 2 semaines dans une famille que je ne connais pas, dans une ville dont on se dit souvent sur le papier, l'homme ne doit pas habiter là, parce qu'il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est trop en altitude, que sais-je. Et justement, moi, je vais m'installer avec cette population pour comprendre que l'homme se fait à son environnement et s'y fait tellement bien qu'il m'arrive de séjourner dans des mégalopoles. C'est plus ou moins facile, mais voilà, l'homme y vit en tout cas.
Cédric Gras, dans votre livre, vous posez la question suivante. Qu'est-ce qu'alors que cette grande affaire qu'on appelle le voyage? Pour vous, le voyage fut d'abord un rite initiatique.
Oui, je crois. Quand on est jeune, on a cette intuition. Il faut partir, découvrir le monde. D'ailleurs, le proverbe le dit, la jeunesse se forme... Non, je ne le dis pas bien.
Enfin, le voyage
forme la jeunesse. Donc c'est quelque chose d'assez inné, je crois, on prend son sac, on a 20 ans, c'est une césure pendant les études, c'est après, avant de prendre un boulot, etc. C'est normal.
Vous faites partie de la génération auberge espagnole, de la génération Erasmus, qui a eu de furieuses envies d'ailleurs?
Un peu, c'est pas la génération que j'ai choisie, mais c'est celle qu'on m'a indiquée sur mon passeport. J'ai eu 18 ans exactement en l'an 2000, moi j'ai eu mon passeport en l'an 2000, donc je me considère comme un voyageur du 21e siècle.
C'est quoi un voyageur du 21e
siècle? Voilà, c'est pas anodin, parce que voyageur du 21e siècle, c'est l'aviation low cost, c'est le tourisme de masse, c'est aussi un rétrécissement du monde, pas seulement par la mécanique bien huilée des transports, mais aussi par un rétrécissement des zones qu'on peut visiter, la géopolitique. Nous, nos pères, les années 60-70, après la guerre, ils avaient quand même accès au monde entier, il n'y avait pas les problèmes de sécurité d'aujourd'hui. C'est énormément de choses qui ont changé, et c'est aussi un deuil qu'il faut faire pour mieux explorer le 21e siècle, faire un peu le deuil de celui qu'on vous a vendu dans les livres, la littérature de la fin du 20e, parce que le monde accélère et ça a beaucoup changé.
Julien Blanc-Gras, vous faites ce deuil également?
Je suis pas tout à fait d'accord avec mon camarade Cédric. Moi, je trouve que le monde est toujours assez accessible. Je sais pas s'il y avait vraiment plus d'endroits accessibles à la génération de nos parents dans les années 60. Je suis pas complètement sûr de ça. Je voulais commencer par dire quand même que Madame de Staël, à mon avis, raconte n'importe quoi. Je sais pas exactement la citation que vous avez citée. Le voyage la plus triste des passions. Moi, je trouve qu'au contraire, le voyage est une joie avant tout.
L'un des plus tristes plaisirs de la vie, c'est de voyager, dit Madame de Staël.
Voilà. Je vais faire un tweet clash avec Madame de Staël parce que je suis pas du tout d'accord.
Les voyages, c'est comme les mariages. Il y a plein de citations, proverbes qui se contredisent. C'est très amusant.
Ismaël Khelifa, vous faites votre deuil d'une certaine idée du voyage.
On sent bien que quelque chose est en train de se passer. Par exemple, la remise en cause aujourd'hui des voyages en avion, le fait qu'on nous incite à redécouvrir des choses qui nous impressionnent juste à côté de chez nous. Et je dirais que le voyage est une joie, mais c'est aussi une addiction pour les grands voyageurs. Alors peut-être qu'il faut re-questionner aujourd'hui cette addiction, voir quel sens aussi on redonne à tout cela. Parce que je crois que le voyage n'échappe pas à cette quête de sens qui touche beaucoup de pans de la société aujourd'hui.
Ismaël Khalifa, pourquoi voyagez-vous ? Votre quête, c'est plutôt de faire les plus belles rencontres humaines possibles plutôt que de parcourir les plus beaux voyages ? Les plus beaux paysages, pardon.
Moi, surtout, les plus beaux paysages, oui, il y a un peu des deux, mais je dirais que surtout, moi, ce qui m'a toujours poussé à voyager, c'est que j'ai toujours eu envie de voir par moi-même, parce que je crois que c'est une des très grandes vertus du voyage. Et il ne faut pas l'oublier, à cette époque, on remet en cause donc ces voyages au long cours. C'est qu'il n'y a pas mieux quand même que d'aller voir par soi-même pour dépasser des idées, des préjugés, pour se rendre compte que le monde n'est pas forcément l'image qu'en donnent les petites lorgnettes des réseaux sociaux ou des journaux télévisés, etc. Et cette expérience du monde, elle est quand même essentielle pour vivre bien avec les autres, je trouve.
Alexandra Lévesque, pourquoi voyagez-vous ?
Alors, je voyage pour rendre compte depuis quelques années, ce qui me semble assez important parce que je pense que le voyage rend plus heureux. Et pourquoi il rend plus heureux ? Parce qu'on en ressort moins con. Et quand on est un peu plus intelligent, on est un peu plus heureux, me semble-t-il. Moi, je voyage vraiment pour rendre compte et pour que les gens aient par mon média. Et voilà, cette sensation de gagner en savoir, j'essaye de leur faire passer même les sensations physiques que je peux ressentir. Alors c'est les rencontres, effectivement, l'humanité, la sociabilité avec les gens, mais c'est aussi les vrais, c'est physique le voyage, c'est vraiment physique. Les sensations et les sens sont mis à l'épreuve sans cesse, je pense.
Cédric Gras.
Oui, mais moi, on m'a fait expérimenter la réalité virtuelle en matière de voyage. C'est assez extraordinaire parce que, bien sûr, c'est pas encore ce que vous décrivez. On n'est pas encore à l'étranger. On n'a pas encore tous les sens comme on peut les avoir ouverts à une atmosphère tropicale et lointaine. Mais il y a quelque chose de bluffant et je pense que on va aller vers des choses comme ça. Moi, ça m'a à la fois terrifié et à la fois enthousiasmé parce que on m'a fait visiter des grandes villes qui sont aujourd'hui submergées par le tourisme de masse. J'étais tout seul dans les rues. C'était fantastique.
Julien Blangra, pourquoi voyagez-vous?
Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je crois que c'est le principe de base, c'est la curiosité, aller voir ailleurs comment les gens vivent, pour comprendre le monde et aussi pour se construire au contact de l'altérité. C'est un peu tarte à la crème, mais je crois que c'est vraiment ça. Et je crois qu'on a tous un voyage initial ou un voyage initiatique. Moi, j'avais 24 ans et à la fin de mes études, j'avais un emploi de journaliste dans ma bonne ville de Gap et je me suis vu 30 ans plus tard avec 30 kilos de plus sur le même bureau et je me suis dit, il faut que je me casse. Et donc, j'ai démissionné, j'ai pris un billet d'avion pour le Mexique, un billet simple. Je pensais rester quelques semaines et finalement, je suis resté un an parce que là-bas, j'ai découvert ce principe tout simple mais assez important de la liberté, en fait, de vouloir aller où on veut, quand on veut, sans personne pour nous dire ce qu'on a à faire. Et ça a donné naissance à mon premier livre.
Cédric Gras, qu'est-ce qui vous pousse à partir en Inde à l'âge de 20 ans ? Qu'est-ce qui vous pousse à monter dans des trains bondés où les ventilateurs dispersent un air vicié, je vous cite, avec des lépreux qui vous mettent leurs membres atrophiés sous les yeux ? Je vous cite encore, qu'y a-t-il d'alléchant au ragoût de la misère humaine ? Rien sinon la commotion que provoque le sordide.
Bien sûr, il y a ça. Le voyage occidental, quand il va voir le monde, il a envie d'en prendre plein la vue. Il va provoquer effectivement des chocs thermiques, des chocs sociétaux. Moi, quand je suis parti au début, l'idée c'était de quitter le domicile de ma mère. Je vais pas vous le cacher. Il y a quelque chose de très important dans le voyage long cours, qui est celui de l'absence. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les technologies du quotidien, lorsqu'on continue à l'utiliser en faisant le tour du monde, à mon avis, elles viennent court-circuiter quelque chose de très important, qui est l'absence, l'éloignement. Lorsqu'on est jeune, c'est ça, on quitte le foyer pour mieux revenir. Dans le voyage, il y a aussi la question du retour. Alors après, il y a la découverte de pays qu'on appelle nous moins développés, une humanité qu'on ne connaît pas. J'ai entendu le mot curiosité, on est là-dedans, mais la curiosité, elle peut virer à quelque chose de un peu plus pervers, de plus voyeuriste. Chacun trouve un équilibre, là-dessus, il y a une frontière qui n'est pas évidente.
Et vous écrivez que voyager, c'est avoir le cœur apatride.
Oui, c'est quelque chose que j'ai écrit, je pense aussi en revenant de Russie, parce que c'est un pays dans lequel je me suis installé pendant des années, dont j'ai appris la langue. Et moi, c'est ce que je recommande aujourd'hui, parce que les voyages un petit peu superficiels, qui enfilent les pays comme des perles, qui glissent sur le monde, enfin, toutes ces espèces de tours du mondiste, là, qui nous vendent une ivresse, en fait, de la route, de la vitesse, etc. Moi, je suis pas sûr que ça soit ça, l'apogée d'un voyage. Je pense au contraire que c'est de s'ancrer dans un lieu, une forme d'itinéraire vertical, qui consiste à tisser des liens, nouer des des relations, apprendre une langue et finalement revenir avec un bagage qui est aussi d'ordre intellectuel, c'est-à-dire une culture, des mots étrangers, une nouvelle manière de s'exprimer et de penser.
C'est ce que vous faites, Alexandra Lévesque, dans votre série documentaire « Drôle de ville pour une rencontre ».
Oui, je pars m'installer à chaque fois 2 semaines. Auprès d'une famille que je ne connaissais pas la veille. Donc je suis allée comme ça à Mani, à Yakoutsk, tu parlais de Russie. Je suis allée au Bénin, enfin voilà, dans 6 villes au total. Et je suis assez d'accord sur la verticalité. C'est-à-dire que une fois que je suis dans cette ville, j'en bouge pas beaucoup. Je bouge même pas beaucoup de la maison qui m'accueille, mais c'est un enrichissement incroyable. C'est-à-dire que Rudy et Worley, qui sont le couple qui m'ont accueilli aux Philippines à Manille, qui vivent dans un bidonville. Enfin, comment vous dire que le dépaysement était plus que total pour moi. Et le fait de vivre pendant 2 semaines avec cette famille, avec les enfants, les tontons, les tatas, les papis, les mamies, j'ai appris énormément sur ce pays en restant avec eux.
Ismaël Khalifa, partir, c'est accepter un inconfort, un certain inconfort, une certaine mise en danger.
Bah oui, et puis c'est aussi ce qu'on recherche, c'est-à-dire que c'est la fin d'une routine de partir. Moi, par exemple, j'étais au Japon récemment, ce qui a été pour moi un voyage qui a été vraiment un peu perturbant, c'est-à-dire que je savais même pas comment dire bonjour à mes interlocuteurs. Je suis quelqu'un de plutôt tactile, alors je leur tapais dans le dos en arrivant, et je faisais déjà une erreur, j'arrivais pas à me repérer dans le métro, enfin, et ça a été absolument jouissif parce que rares sont les voyages aujourd'hui qui vraiment nous renversent, où on perd tous nos repères, et je crois que c'est cela aussi qu'on cherche. Parce qu'à la fois on va à la rencontre de l'autre et à la rencontre de soi. Comment est-ce que je fais pour me débrouiller? Comment est-ce que je fais pour interagir? Et c'est pour ça aussi que les voyages forment la jeunesse. Et puis je crois qu'ils forment aussi tout au long de la vie sur soi et sur l'autre.
Julien Blangras, vous le recherchez, vous, cet inconfort?
Oui, ça fait aussi partie de la joie du voyage que de sortir de sa bulle de confort, bien sûr. Je pense même que c'est bon pour la santé, parce que quand on est en mouvement, quand on est un peu défié par son environnement, on est plus alerte, on est plus vigilant, et je pense que le cerveau fonctionne mieux et le corps aussi.
Alors j'aimerais citer le grand écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Un voyage se passe de motifs, et il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou qui vous défait, Cédric Gras.
Ah, cette citation, je vous avoue que j'ai tellement
entendu. On l'a beaucoup entendu.
J'en peux plus.
Pourquoi vous en pouvez plus?
J'adore Bouvier.
Mais vous savez, il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas Nicolas Bouvier.
Oui, je me rends compte moi aussi. Que
Et alors, pourquoi vous n'en pouvez plus? Bah
parce que, alors d'abord, Bouvier c'est beaucoup plus riche que cette seule citation, mais qui en soi est très intelligente, cette citation, on peut discuter, on n'est pas forcément complètement d'accord, mais je sais pas pourquoi cette citation, elle a été mise sur un piédestal, et c'est le slogan du voyageur d'après-guerre.
Mais en soi, ce qu'elle dit, cette phrase.
Oui, alors, sur la première partie, je suis pas forcément d'accord. L'errance, enfin, c'est de ça qu'il parle, hein, le voyage qui se passe de motifs. Je pense que l'errance, c'est justement le voyage qu'on fait à 20 ans. Après, on peut fatiguer quand même de ces voyages sans but. Il y a besoin de faire des choix, il y a besoin de construire. Moi, aujourd'hui, je ne travaille pratiquement plus que sur des projets, des enquêtes, des recherches, des choses qui ont derrière un fondement d'ordre, professionnel un peu, mais surtout intellectuel.
Claude Guibal, grand reporter au service international de Radio France, vient de pénétrer dans le studio.
J'ai entendu Nicolas Bouvier.
Voilà, exactement. Vous êtes une grande lectrice de Nicolas Bouvier. Nous avons échangé hier quelques pages de Nicolas Bouvier, de l'usage du monde notamment. Ouais. Vous êtes d'accord avec ce que vient de nous dire Cédric Gras?
Moi, je continue à être un voyageur d'après-guerre, en fait. Je crois. Voyageur sans but. Alors non, moi, j'ai la chance d'être payée dans mon métier justement pour voyager. Je pense que d'ailleurs, mon choix professionnel est profondément lié à ce goût du voyage, etc. Je fais partie donc du club des Bouviers au film. J'ai presque l'impression que c'est d'une petite secte en fait, parce que je le racontais à Ali Rebéi, moi l'usage du monde, on me l'a offert et comment me l'a offert, je le passe en fait, je l'achète toujours en 2 exemplaires et au cours d'une discussion, voilà, si quelqu'un vient dîner à la maison et je sens que il y a quelque chose, je donne l'usage du monde comme on me l'a donné.
Pourquoi?
Parce que c'est le livre du voyage et du voyage. Souvent, le voyage, on voit le voyage comme de la distance. En fait, le vrai voyage, c'est le temps. Le vrai voyage, c'est le temps de la rencontre, en fait, de la rencontre avec les gens. Et j'ai pas mal voyagé, j'ai eu la chance de pas mal voyager avec mes parents quand j'étais petite. Alors, avec le côté un petit peu cliché sûrement des 4 gosses dans le minibus et puis on part et on va voir le soleil de minuit, dormir tous dans la voiture au Lofoten. Et j'ai vu donc des paysages magnifiques et je me suis rendu compte en arrivant à 20 ans que ces paysages ne s'étaient pas ancrés en moi. Et c'est quand j'ai commencé à voyager seule et justement en allant à la rencontre des gens que tous les lieux s'ancrent par les rencontres, par le temps qu'on prend pour parler aux gens. Or, pour parler aux gens, il faut être justement libre et sans but.
Alexandra Lévesque.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Le temps est très important dans le voyage. À la limite, peu importe le paysage. C'est vraiment le temps passé avec des personnes, que ça peut être aux quatre coins du monde, qui va faire qu'on va s'imprégner des odeurs, de la langue, de la nourriture, du rythme de vie, des coutumes, des traditions. Enfin voilà, la liste est longue. Mais je suis assez d'accord. De toute façon, le temps est dans nos métiers. Il est très précieux, le temps.
Peu importe le paysage, Ismaël Khalifa.
Ah, moi, je suis pas exactement d'accord parce qu'une grosse partie de ma vie de voyageur, ça a été d'aller en Antarctique. Donc, je croisais pas énormément de populations autochtones là-bas. Comme
des manchots, non? Des manchots?
Beaucoup de manchots, mais la discussion était un peu réduite. mais si, je trouve que le paysage importe beaucoup. Par contre, dans le temps, il y a le concept de contemplation. Et je crois que parfois, dans nos vies un peu d'urbains, rapides, pressés, ça a une vertu absolument extraordinaire de pouvoir justement prendre le temps. On se met, quand on voyage, dans une bulle de temps, une bulle géographique qui est absolument différente de ce qu'on a l'habitude de vivre. Et c'est pour ça aussi que ça nous donne une forme d'adrénaline. On fait quelque chose qui est inhabituel pour nous. On casse nos codes, on casse nos routines. Et c'est ça qui fait du bien.
Cédric Gras.
Oui, mais le temps, pour moi, c'est vraiment la définition du voyage. Parce qu'on parle toujours du tourisme versus le voyage. Il y a plein de gens qui ont leur sac à dos qui disent « Moi, je ne suis pas un touriste, je suis un voyageur. » Bon, mais quand vous passez la douane, il n'y a pas 36 cases à cocher. Hein. Soit vous êtes là pour les études, soit vous êtes là pour le boulot, soit vous êtes diplomate. Sinon, vous êtes touriste, c'est tout. Il n'y a pas d'explorateur, il n'y a pas d'aventurier. Donc, pour moi, la différence entre le voyageur et le touriste, c'est justement celui qui a le temps et celui qui est dans une organisation des choses très... très strict parce que son patron lui a donné 2 semaines de congés payés, pas plus, il a un billet retour, etc. Et il est obligé, il s'impose un voyage privé de toute possibilité d'errance et de rencontres approfondies.
Oui, je suis d'accord avec cette définition. Le touriste, il a un truc programmé, il sait où il va. Le voyageur, il laisse un peu sa chance au hasard. Il y a un truc aussi sur les raisons du voyage, c'est que je crois que tous autant qu'on est ici, on voyage pour raconter le monde. C'est pas les mêmes motivations que juste voyager pour soi-même. Et ça change le rapport au voyage parce qu'on voyage pour rapporter quelque chose. Et ça donne du sens.
Claude Guibal.
Ah bah elle va citer Claude Guibal, Nicolas Bouvier, hein, encore un qui dit comme une eau, le monde vous traverse. Hein. C'est voilà, c'est ça. C'est le voyage, c'est se laisser traverser. Comme une vague, la laisser refluer, donc ça veut dire être totalement réceptif.
Merci Claude Guibal d'être passé dans le studio de Grand Bien Vous Fasse. Allez, dites-nous pourquoi vous voyagez, quels sont les voyages de votre vie. Dites-nous également si vous détestez voyager, 01 45 24 7000. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Leprince.
Bah, il la remercie de m'avoir accompagné à la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Bah non, il se moque pas d'elle, mais regardez... Tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Retourner dans notre cage pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Ah, il espère que c'est un fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage,
les matins ou davantage, pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage, et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Françoise Hardy et Jacques Dutronc, puisque vous partez en voyage. Pardon, c'est la canicule encore.
Moi, ce que j'ai surtout détesté à l'étranger, à part les étrangers eux-mêmes, évidemment,
grand bien vous fasse,
c'est surtout qu'ils parlent pas français. Et selon les pays où qu'on va, ils parlent pas le même étranger.
Sur France Inter.
10h28, pourquoi voyagez-vous? C'est notre question du jour. Quelles sont les destinations qui ont changé votre vie? Dites-nous également si vous fuyez les voyages comme la peste. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Avec nous, Jérôme, bienvenue. Bonjour Jérôme, bienvenue. D'où appelez-vous Jérôme?
Moi j'appelle de à côté de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne.
Alors vous, pourquoi voyagez-vous?
Alors je voyageais pour l'exotisme, pour l'aventure, et puis pour découvrir des territoires un petit peu nouveaux. Donc j'ai commencé à voyager un peu tard, à partir de 28 ans. Mmh. Et on a surtout privilégié des destinations sur le nord, sur l'Islande, la Norvège, le Canada, des choses comme ça. Mmh. Et en 2015, j'ai voulu aller au Svalbard. Mmh. Pour pousser un petit peu l'exotisme.
C'est où ça? C'est où?
Et après avoir réservé mes billets, j'ai commencé à avoir des scrupules. Mmh. En fait, lorsqu'on a commencé à voyager en Islande, il y avait peu de touristes en 2005, et le tourisme s'est super développé, ce qui fait que on avait l'impression vraiment d'abîmer le pays et son environnement. Et en partant au Svalbard, j'avais l'impression de recommencer la même erreur. Mmh. Ce qui fait que je suis allé à l'aéroport, j'ai regardé mon avion partir, mais je ne suis pas monté dedans. Et depuis, j'ai un point de vue un petit peu différent sur le voyage. Mmh. Et on essaye de privilégier des petites expériences plutôt plus proches en allant parcourir 4 jours de vélo sur un bord de canal, par exemple, sans téléphone. Donc, on arrive à se faire d'autres aventures. Et par contre, je voyage davantage avec des livres, comme les livres de Cédric Gras, et notamment L'hiver aux trousses, qui était vraiment un super moyen de voyager.
L'hiver aux trousses.
Qui m'a encouragé. Oui. Qui m'a encouragé à apprendre le russe.
Alors le Svalbard, je ne sais pas comment on dit, c'est un archipel en Norvège, c'est ça?
C'est ça, dans l'Arctique.
Voilà, tout au nord de la Norvège.
Ouais. Tiens, Cédric Gras, sur le témoignage de Jérôme.
Oui, ça m'étonne pas plus que ça. Le problème, c'est que le tourisme, on le comprend, parce que ça a une sonorité un peu presque marketing, il y a les dépliants, il y a les agents, etc. Le voyage, on a plus de mal à associer ça à quelque chose de commercial, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des modes. Il y a aussi, on est dirigé par plein de choses d'ordre économique. Nous-mêmes, on va choisir des billets d'avion les moins chers. En général, ça veut dire qu'il y a plusieurs vols. On a du mal à aller chercher là où il n'y a personne, en fait, parce qu'on est nous-mêmes redirigés par le système. C'est énorme le flux de voyageurs aujourd'hui. Sortir des sentiers battus, ça c'est une expression assez consacrée, mais qu'il ne faut jamais perdre de vue, je crois. Moi,
merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir appelé. Alors, voyager, c'est accepter d'être déboussolé, déstabilisé, de ne pas tout comprendre. C'est l'inverse. Donc du tourisme de masse et de ses chemins balisés. Cédric Gras, dans votre livre « Saisons du voyage », à propos de Dubrovnik, ville ultra touristique, vous écrivez « Cimetière des rêves, cité muséifiée par la multitude, comme la lave a pétrifié Pompéi ». Et vous avez vécu la même chose en Crète, à Istanbul, à Florence. Et vous écrivez une chose très forte, « La géographie originelle y est corrompue, l'altérité singée, le voyage dénaturé ».
Bien sûr, mais écoutez, Dubrovnik, moi, ça a été le cimetière des rêves, effectivement. D'abord, ça a tout d'un musée. C'est un musée à l'échelle d'une ville. La ville elle-même a été reconstruite puisqu'elle avait été détruite pendant la guerre. Et elle est dédiée au tourisme. Et il y a beaucoup de lieux aujourd'hui sur la planète qui sont dédiés au tourisme. Il n'y a plus de gens qui habitent dans les murs que vous voyez, ou très peu. Il y a un flux touristique monstrueux. Ce sont des villes qui n'ont plus d'âme.
Julien Blangras, vous qui avez écrit « Touriste ».
Oui, non, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, le titre de cet ouvrage, c'était pour définir le voyageur qui voyage sans but, avec la curiosité comme seule boussole. Après, voilà, il faut aussi essayer d'aller expérimenter des destinations un peu plus lointaines, un peu plus incongrues. Moi, j'étais en reportage il n'y a pas très très longtemps au Swaziland, donc petite monarchie absolue africaine enclavée dans l'Afrique du Sud. Il n'y avait pas beaucoup de touristes.
Alexandra Lévesque, vous êtes d'accord avec l'idée que le tourisme conforte et que le voyage transforme?
Ah oui, j'en suis intimement persuadée. Mais il transforme parce que je reviens sur ce que disait Cédric tout à l'heure. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du physique. Et on en ressort assez chamboulé parce que les odeurs, parce que l'ouïe, parce que la vue sont perturbées par des paysages incroyables, par une lumière extraordinaire. Et on en ressort, oui, très, très différent, plus riche. Ça enrichit, c'est pas mal.
D'autres phrases un peu terribles sur le tourisme, Cédric
Grin. Qu'est-ce que j'ai encore dit?
Si, dans votre livre, vous écrivez que pour vous, le tourisme proscrit la rencontre et folklorise le dépaysement. Bref, que le tourisme se moque du monde.
Ah oui, j'ai écrit ça.
Vous l'avez écrit.
Ouais. Oui, j'ai trouvé ça, moi, parfois, que le tourisme se moquait du monde. Quelque part, ils ne respectent pas les lieux, les cultures, les pays. D'ailleurs, il y a localement des gens qui s'en plaignent. Donc, c'est bien qu'il y a un problème de relation entre les touristes et les gens que les touristes sont supposés venir voir. Et en réalité, ils ne sont pas tout à fait ouverts, en général, à cette rencontre. Mmh. En tout cas, pas totalement. Ils réclament un standard de confort, d'infrastructures, de repères. Ils réclament des repères, en fait. Le touriste n'aime plus être déboussolé. Enfin, ça, c'est ce qui concerne le touriste de masse. Et d'ailleurs, je crois que Julien, juste avant, a employé le mot de boussole. C'est important, je pense, de perdre le nord. Hein.
Vous êtes d'accord?
Oui, on est toujours le touriste de quelqu'un. Alors quand on parle de tourisme, on parle souvent de la caricature du tourisme, le tourisme de masse canalisé que vient décrire Cédric. Mais il y a effectivement d'autres formes de tourisme qu'on appelle du voyage, quoi. Comme le disait Cédric tout à l'heure, on peut être seul avec son sac à dos à l'autre bout du monde, essayer de pas trop faire de dégâts à l'environnement ni à la société qu'on visite et être un touriste malgré tout.
Ismaël Khalifa.
Oui, moi je serais plus mesuré parce que j'ai été guide touristique dans une autre vie et je dirais que des fois vous recevez des touristes qui viennent 15 jours à un endroit et que c'est le niveau maximum d'aventure que eux aussi, de par leur héritage, leur culture, leurs moyens financiers, leur peur sur certaines choses, sont en mesure de vivre et qu'ils ont la sensation aussi de vivre une aventure très forte. Donc déjà, il y a un côté personnel là-dedans. Ensuite, bon ben c'est joli, nous on est des voyageurs, on part, on a fait ces choix-là, tant mieux pour nous, mais ce sont nous aussi qui leur donnons envie de vivre ça. C'est-à-dire que moi quand j'allais en Antarctique, tous ces gens-là sont avec les livres des voyageurs qui y sont allés, qui font des récits au long cours et vont rechercher à leur niveau cette petite sensation. Donc c'est là où se pose la question aussi quand même de la frontière entre le touriste et le voyageur. Et on a quand même un effet très prescripteur sur ce tourisme qu'on déplore aujourd'hui.
Cédric Gras.
Il n'y a pas, à mon avis, de gens qui sont des touristes et d'autres qui seraient des voyageurs. C'est beaucoup le lieu qui vous fait touriste ou voyageur. Moi, quand je suis arrivé à Dubrovnik, j'étais un Pékin dans la masse et de facto, je me suis retrouvé être un touriste, le plus standard des touristes et tout. Dès lors que vous êtes beaucoup, dès lors que vous pouvez prendre 1000 explorateurs extraordinaires qui ont l'habitude de voyager tout seul, vous les mettez ensemble dans un lieu, ça fait du tourisme et ça dénature le lieu.
Tiens, Mehdi nous demande justement si vous recommandez de voyager seul pour voyager vraiment.
Oui. Absolument, mais je pense que Julien sera d'accord.
On est d'accord.
Tu veux commencer, Julien?
Pourquoi? Parce que c'est le principe de liberté. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un ce qu'on va faire demain.
C'est un buvard, quoi. Dès que vous êtes deux, vous enfermez dans une conversation avec quelqu'un que vous connaissez en français. Les gens, vous êtes moins ouvert sur les autres. Enfin, c'est
et
un
puis,
principe assez
simple. Voyager seul, c'est le meilleur moyen de ne pas le rester très longtemps. Parce que dès que t'es deux, t'es une bulle. Alors que dès que t'es tout seul, tu attises la curiosité parce que c'est assez rare les voyageurs solitaires. Les gens viennent plus facilement vers vous.
Alexandre Lévesque.
Oui, alors moi, pour mon boulot de fait. J'ai forcément des gens autour de moi, ne serait-ce qu'un réalisateur. Mais le fait de mon réalisateur, il part à l'hôtel le soir. Moi, je reste chez mes nouveaux papa-maman, ces gens qui m'adoptent pendant 2 semaines. Et effectivement, ça change tout, le fait d'être seule. Même si on parle pas du tout la même langue. J'ai séjourné à Yakoutsk, par exemple. Je ne parle pas le yakout, je ne parle pas le russe. Et pourtant, avec la maman qui m'avait accueillie, on se parlait, on se touchait, on se câlinait, elle m'habillait, voilà, elle me prêtait des vêtements. Il y a un vrai rapport presque charnel, mais parce que j'étais toute seule.
Alors Carole se demande si voyager permet vraiment de mettre ses problèmes à distance. J'ai l'impression que mes difficultés de vie, je les emporte dans mes bagages, ou que j'aille dans le monde. Je pense que c'est un leurre de penser que le voyage nous transforme. Cédric Grin.
Oui, parce que là, elle c'est un dilemme. Effectivement, il y a deux sortes de voyages. Il y a le voyage autour du globe et puis il y a le voyage dans sa bulle. Et c'est deux buts différents. Il y a des gens qui partent effectivement pour faire le point sur leur vie. Il y en a d'autres qu'ils partent, ils ont pas de questionnement particulier existentiel et ils partent pour découvrir le monde. Mais ça fait vraiment, c'est deux grands genres, même dans la littérature de voyage.
Moi, je crois à l'ennui, à la peur de l'ordinaire. J'y crois comme moteur de la fuite, de l'évasion, enfin du voyage, quoi.
Ça veut dire que peut-être vous-même expérimentez cet ennui de l'ordinaire, mais c'est pas ce que vous choisissez d'écrire. Qu'en fait, la littérature s'intéresse au moment où ça bouge.
Voilà, c'est ça. Je ne parle pas des causes, moi. Je ne raconte pas les motifs de mes voyages. D'ailleurs, si je les racontais, il est probable que je mentirais. Je dirais pas que je pars pour m'ennuyer. On essaye toujours de faire bonne figure. Il y a qu'ici que je dis la vérité, parce que vous me posez la question. Il y a très peu de voyageurs qui avouent qu'ils ne partent que pour essayer d'échapper à un sentiment de grisaille.
L'écrivain Sylvain Tesson dans l'émission Livre et vous sur Public Sénat. Cédric Gras, dans votre livre, à la question pourquoi partons, vous répondez « Je pars car je m'ennuie. La terre, vaste salle des pas perdus. »
Oui, bah, j'ai rien à redire. S'il fallait la réimprimer comme ça, je mettrais les mêmes mots.
Et Julien Blangras, c'est l'ennui aussi qui vous pousse à partir
Pas forcément l'ennui. Non, mais le voyage se nettoie aussi. En fait, ça purifie, ça réinitialise. Parce que quand on est dans sa routine, dans sa vie sédentaire, on vit sous le regard des autres. Quand on voyage seul, on est quelqu'un d'autre parce qu'on est neuf. On découvre des nouveaux territoires, on rencontre des nouveaux gens. Donc, on peut aussi être quelqu'un d'autre sans que ce soit un processus conscient et volontaire.
Oui, et puis je pense que ça reconnecte au réel. On est quand même très habitué à la virtualité depuis des quelques années maintenant, et que ça reconnecte au vraiment au palpable, au toucher, quoi, au physique. Et ça, c'est pas mal.
Alors ça, c'est très important. Moi, je me suis rendu
Merci
compte
beaucoup.
Que depuis quelques années, je voyage pour me rassurer. Parce que de nos jours, on consomme le monde via les écrans. Vous savez bien, avec les réseaux sociaux, il y a ce truc très identifié qu'on reste dans un entre-soi. Et c'est assez toxique parce que voilà, les gens s'invectivent et du coup, ça génère l'anxiété. Quand on voyage, on se rend compte que vu de près, le monde n'est pas aussi moche qu'il en a l'air à travers un écran. Et l'expérience physique de l'altérité, ça n'a rien à voir avec le virtuel.
C'est une lutte contre le virtuel. C'est l'expérience du réel, le voyage.
Il arrive d'un long voyage sur la ligne 6. Ça devait être assez chaud à l'intérieur.
Quelle aventure.
Oui, hein, ça n'a pas trop ramolli votre cerveau, Thibaut de Saint-Maurice.
J'espère pas.
Parce que moi, la canicule a un effet sur mon cerveau absolument désastreux. Alors ce matin, vous nous faites voyager en compagnie de trois philosophes. Je vous écoute. On vous écoute.
Eh ben oui, Ali. En fait, je me disais qu'on imagine parfois que les philosophes sont encore des êtres immobiles, vous savez, qui passent leur vie à lire, à écrire, à enseigner, bien loin des aventures du voyage. Et pourtant, ce matin, je voulais vous proposer de suivre trois philosophes grands voyageurs qui vont, je crois, nous apprendre chacun à leur manière ce que le voyage peut changer dans nos vies et peut-être nous donner des petits conseils ou des petits trucs et astuces pour voyager différemment.
Et on part d'abord à Syracuse.
Oui, avec Platon, il y a 2500 ans, qui, à la fin de sa vie, alors Platon, il a beaucoup voyagé, hein, en Égypte, en Anatolie, etc. Mais à la fin de sa vie, il fait trois voyages, coup sur coup, on va dire, à Syracuse, en Sicile. Et pourquoi va-t-il à Syracuse, en Sicile ? Eh bien, pour essayer de mettre en place le gouvernement idéal, celui qu'il avait théorisé dans son livre La République. Il s'est dit, voilà, on va essayer d'appliquer la théorie à Syracuse avec le tyran Denis. C'est une sorte de déplacement professionnel de Platon, dont le but, donc, est de passer de la théorie à la pratique et surtout de faire une sorte d'épreuve de vérité de sa propre philosophie. Alors à chaque fois, les trois voyages, ça se passe très très mal. Même à la fin du premier voyage, Platon est vendu comme esclave et il ne doit qu'un hasard d'être racheté et de pouvoir revenir à Athènes et d'y fonder son école de philosophie. Et donc en fait, ces trois voyages sont trois échecs de l'application de la philosophie de Platon dans cette réalité politique de la ville de Syracuse. Ce que je crois que ça nous apprend, c'est que, on l'a un peu dit, partir en voyage, c'est toujours imprévisible. Ça peut être un échec, ça peut être plein de dangers, on peut se perdre et on peut finalement ne pas réussir à atteindre ce pourquoi on était parti.
Arpentons d'autres chemins philosophiques ailleurs en Europe ?
Oui, avec Descartes cette fois-ci. Alors Descartes, c'est fascinant, on a l'impression qu'il n'a pas de chez lui, qu'il n'a pas de maison. Il est toujours en train de voyager, d'abord parce qu'il a été soldat et ensuite parce qu'il n'a cessé de bouger en France, en Hollande, en Suède. Descartes, c'est un homme qui vient passer des séjours et c'est un homme qui est toujours en chemin. Il passe des séjours de quelques mois entre deux voyages sur des chemins et justement, avec Descartes, on n'est jamais perdu parce que là, on est toujours sur un chemin. Et évidemment, en grec, chemin souvenez-vous, Ali, ça se dit méthodos. Et Descartes, son fameux discours de la méthode, c'est un expert de la méthode, un expert des chemins. Pour ne pas se perdre dans un voyage comme dans ses pensées, le conseil de Descartes est assez simple, il faut rester sur un chemin, s'y tenir, et forcément, il nous mènera quelque part. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir des sentiers battus ou qu'il ne faut jamais partir à l'aventure. Ça veut dire au contraire que explorer, voyager, c'est inventer un nouveau chemin et aller au bout. Pas de voyage sans chemin, pas de découverte sans méthode. Et quand on voyage comme Descartes, on ne flâne pas, on ne se laisse pas porter au hasard des rencontres ou des couleurs dans les vitrines des marchands de souvenirs, mais on avance résolument.
Et on finit par le bord de mer, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, en Italie, à Sorrente, c'est magnifique, au sud de Naples. Et cette fois, on part avec Nietzsche. On est en 1876, Nietzsche est épuisé, il a trop travaillé et en plus, il a des migraines absolument épouvantables. Et donc, il part pour plusieurs mois à Sorrente, dans une très belle villa, à l'invitation d'une amie. Et Nietzsche raconte ça, c'est absolument fascinant. En quelques jours, il passe du nord, donc de l'Allemagne, au sud, et il découvre le soleil, les grandes promenades dans la montagne, et puis surtout le choc du bleu métallique de la Méditerranée sous le soleil. C'est un véritable tournant dans sa pensée, et il découvre, comme il le dit, qu'il a assez d'esprit pour le sud, comme si le sud demandait d'avoir davantage d'esprit. C'est le tournant dans sa philosophie de ce qu'on appelle la philosophie de l'esprit libre. Il est capable de supporter tout ce soleil, toute la puissance de ces montagnes qui plongent dans la mer. Il a toujours mal à la tête, ça, les migraines ne passent pas, mais ça lui ouvre des horizons. Avec Nietzsche, on comprend que le voyage, bien sûr, nous fait voir le monde autrement et donc qu'il va nous changer et que la rencontre avec des paysages nouveaux, elle peut être aussi importante que la rencontre avec des gens nouveaux. Et bref, que le voyage est avant tout une ouverture au possible et que l'on sait que l'on a fait un beau voyage, non pas quand, vous savez, on dit qu'on a fait telle ville ou qu'on a fait tel monument, mais quand on peut lire en soi les petites lignes de changement qui ont été provoquées par le voyage. Voilà, au fond, on peut partir très loin. Et en fait, ne jamais voyager, parce que évidemment, il suffit pas de partir. Hein. Il faut aussi s'étonner, questionner, découvrir. Bref, faut philosopher.
Et c'est ce que vous allez faire cet été, à la montagne.
Absolument.
Hein ?
Voilà, pas trop loin, dans les Alpes, mais
seul.
Seul dans la montagne.
Expliquez en deux mots. C'est...
Non, l'envie, voilà, d'aller marcher, de me confronter un peu à cette solitude que le père de famille que je suis n'a pas forcément. Et donc, il y a un truc qui s'appelle le tour du massif des Écrins. Voilà.
Il y aura pas trop de monde là. Celui voilà. Du Mont Blanc, il y en a plus.
Voilà, c'est ça. C'est 10 jours, 10-12 jours. Et l'idée, voilà, c'est de faire mon petit Nietzsche comme ça, de me promener.
Merci beaucoup Thibaut de Saint-Maurice pour cette saison passée ensemble dans Grand Bien Vous Fasse. On se retrouve la saison prochaine.
Mais avec évidemment. Plaisir, il y a tellement d'autres petites situations du quotidien et de questions du quotidien à explorer avec vous, Ali.
Allez, pourquoi voyagez-vous? Quelles sont les destinations qui ont changé votre vie? Appelez-nous au 01 45 24 7000. Appelez-nous également si vous détestez voyager. thème, Impala interprété Borderline.
Et j'ai essayé un truc sympa, c'est les vacances.
Grand bien vous fasse.
Quand t'arrives là-bas, bien, le soleil présent, il tape bien 40 degrés long. Là-bas, il n'y a pas d'ombre.
Sur France Inter.
10h47, pourquoi voyagez-vous? C'est notre question du jour. Appelez-nous au 01 45 24 7000. Bienvenue Floriane.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez d'où Floriane?
Alors j'appelle de l'Ain, je suis à côté de Mâcon en fait.
Très bien.
Mais je suis dans l'Ain.
Pourquoi voyagez-vous Floriane?
Alors moi je voyage à vélo principalement. En fait je voyage toute seule sur des périodes courtes, hein, 2-3 semaines. Alors c'est pour moi en fait, c'est physique déjà, mais c'est surtout une source de méditation on va dire. Je me donne rendez-vous avec moi-même. Je pars à la rencontre d'autres paysages, évidemment, d'autres modes de vie, d'autres gens. Je pars quelque part à l'étranger, je pars en France. Enfin, voilà, je visite les pays, on va dire. Et puis, surtout, ben, je pars de chez moi. Donc, c'est un moyen de me dire, je m'échappe un peu du mode de vie que j'ai, qui est un peu compliqué, enfin, agité, on va dire. Donc, ça me permet vraiment de tout couper. Donc, je coupe tout, hein, pour ainsi dire. Je coupe le téléphone, je donne des nouvelles le soir, voilà. Et puis, en fait, c'est parti du fait que petite, je partais beaucoup seule à vélo aussi avec mon papa. Et on a découvert la France, on a découvert des pays comme le Portugal, la Suède. Voilà. À l'époque, petite, j'avais entre 13 et 17 ans, c'est surtout une quête de l'export, je pense. Plus que de... Enfin, aussi de découvrir des contrées, on va dire, parce que c'était... Voilà. Et je pense que pour moi, c'était surtout l'export. J'ai fait plein de vélos.
Floriane, on a un peu de mal à vous entendre. Je crois qu'il y a un petit problème technique. Mais restez avec nous. On accueille Damien. Bienvenue, Damien.
Bonjour.
Alors, vous n'aimez pas du tout voyager, crois-je savoir.
C'est pas mon premier choix pour des vacances.
Pourquoi? Expliquez-nous.
Bah, en fait, effectivement, le voyage peut avoir quelque chose d'assez inconfortable ou... C'est même un budget où ça demande quand même une certaine organisation. Et puis, moi, voilà, pour des vacances vraiment cool, je préfère mon canapé.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Un beau voyage.
Et comment c'est vu dans votre entourage, le fait que vous soyez casanier, que vous n'aimiez pas voyager? Comment c'est perçu?
Oui, casanier, paresseux. Ouais.
Non, mais comment?
Non, c'est pas critiqué, hein. Non, c'est pas critiqué, c'est pas malveillant, en tout cas, face à moi. Mais c'est vrai que ça peut être perçu un peu bizarrement, de pas avoir ce désir d'évasion. J'aime bien essayer que l'évasion elle soit vraiment au jour le jour ou dans mon métier. Donc c'est pour ça que les vacances, ça va peut-être être plutôt une parenthèse où je vais aussi me recentrer, me ressourcer, mais profiter de chez moi, profiter de mon de ma bulle.
Alors, on a de grands voyageurs autour de la table. Cédric Gras, vous comprenez Damien qui n'aime pas ça, voyager?
Oui, bah, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est
merci
vrai que...
non, mais... Merci, lieutenant.
Mais c'est vrai qu'il y a une dictature un peu du voyage dans la société d'aujourd'hui. Il suffit de prendre des curriculum vitae. Il y a toujours maintenant une ligne voyager par-ci, par-là. Et il faut avoir fait dans son cursus universitaire une année d'échange, etc. Pourquoi est-ce que c'est devenu obligatoire? C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rester dans son canapé, être paresseux et ne pas être jugé?
D'autant que le bilan carbone de Damien est sûrement bien meilleur que le nôtre.
Alexandra Lévesque.
Mais moi, je le trouve très honnête, Damien. Il fait ce qu'il veut. Il a sûrement un canapé formidable en plus.
Merci beaucoup, Floriane et Damien, d'être intervenus ce matin.
Je suis une vraie Française, éternellement insatisfaite. Pour moi, il fait toujours trop moche, trop gris, trop froid. Alors, pour soigner ce vilain défaut, j'ai décidé d'aller là où c'est vraiment le cas. Je m'envole donc pour Yakoutsk, à l'est de la Russie. C'est la capitale de la province de Yakoutie, grande comme 6 fois la France. Mais Yakoutsk est surtout connue pour être la ville la plus froide du monde. Une cité construite au beau milieu des steppes de Sibérie, sur une ancienne terre de goulag. Là où la température moyenne en hiver est de moins 42 degrés et où les records ont déjà dépassé les moins 60. Je veux comprendre comment il est possible de mener une vie ordinaire dans un climat aussi extrême. Quel est le quotidien des 300 000 habitants de Yakoutsk? Pour le savoir, je vais vivre comme eux pendant plusieurs semaines, dans ces températures que seuls les alpinistes de l'Everest ou les explorateurs des pôles ont déjà ressenties. Je vais me fondre dans le décor et faire de cette ville la mienne.
Drôle de ville pour une rencontre, c'est votre série de documentaires, Alexandra. À l'évêque, voilà, l'idée, c'est de se fondre dans le décor. Il y aura 4 numéros inédits au mois d'août. Fondre dans le décor, j'adore ça.
C'est
réussi dans le numéro inédit qui sera diffusé le 7 août à Manille.
Oui.
C'est extraordinaire la relation que vous nouez avec les habitants. C'est.
Je sais pas si c'est extraordinaire.
Si c'est
en tout cas, c'est une chance.
C'est une chance.
Ouais, c'est une vraie chance de qu'on m'ait confié cette collection. Il y a un plaisir assez égoïste. En tout cas, pendant le tournage, pendant que je suis avec eux. Après, voilà, j'y vais pas pour moi, mais pour France 5.
Mais il y a un respect. Il y a une bienveillance.
C'est le minimum syndical quand même.
Je peux vous citer d'autres émissions où il n'y a pas forcément ce respect-là, mais.
Mais non, mais il y a, et surtout, moi, ce que j'apprécie avec ces familles qui m'accueillent, outre le fait qu'ils sont d'une générosité, dingue, c'est que d'abord, ils sont souvent curieux de recevoir une Française chez eux. C'est-à-dire que moi, je leur pose des questions, mais ils m'en posent aussi. Et puis il y a beaucoup d'humour. En fait, on rit beaucoup. J'ai été assez surprise. Je suis allée dans des endroits quand même assez différents, du Bénin à Yakoutsk, en passant par Las Vegas, la Bolivie. Il y a un second degré chez tous ces gens qui est assez appréciable. Et ça, c'est mon leitmotiv. Je suis désolée, c'est celui-là. Je pense que par l'humour, on arrive. Évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais on échange des milliards de choses quand on se marre un peu. Et on peut parler de, enfin, à Manille, par exemple, on vivait dans un bidonville, je peux vous assurer que c'est pas tous les jours très rigolo. Mais il n'empêche qu'on fait la fête, qu'on mange, qu'on rit.
Et cet humour, il passe par les mimiques, les gestes, pas forcément par la parole.
Non, bien sûr, il y a je me rappelle entre autres d'un moment qui était très touchant et très drôle. En Bolivie, j'étais dans une famille et la mamie, qui avait 85 ans je crois, était assise à cause de moi. On était toutes les deux au soleil sur une terrasse avec la passe à nos pieds et j'avais des lunettes de soleil. Et puis je la vois qui met sa main devant ses yeux. Je sentais qu'elle était embêtée, donc je lui ai tendu mes lunettes de soleil. Elle les a mises à l'envers. La scène est hallucinante. Cette femme, elle était magnifique. Elle avait des rides de plus profondes que je ne sais quoi. Et surtout, ça voulait dire qu'elle avait jamais porté de lunettes de sa vie. Donc ça voulait dire tout un tas de choses. Et ça la faisait de me voir rire. Elle a ri. On s'est pas parlé. On parlait pas du tout la même langue. Mais c'est une scène que j'ai adorée. Et évidemment, vous imaginez bien qu'on l'avait pas prévu à Paris.
Se fondre dans le décor, c'est votre objectif, Cédric Gras. Quand vous partez en Eurasie, expliquez-nous cet attrait magnétique pour l'Eurasie, en ex-URSS pour le dire vite. Vous l'écrivez, l'Eurasie, cet océan de steppes et de monts. Pourquoi vous êtes autant attiré par ces immensités continentales?
Oui, moi quand j'ai ressenti...
Dépourvu de tout attrait touristique, hein.
Oui, esthétique,
priori,
on va dire.
Enfin,
ça fait pas partie de tropisme de l'occidental qui se demande où il va partir pour ses vacances. Je suis pas un homme de la mer, c'est vrai que c'était les montagnes. J'ai toujours aimé les destinations très continentales. Et puis après, il y a eu ce coup de foot pour la langue russe. Alors là, on parle d'ex-URSS. Bien sûr, il y a 1000 subtilités locales et des populations qui ont d'autres langues. Mais je crois aussi c'est que c'était des destinations qui étaient fermées jusqu'à la chute de l'URSS en 1991, qui aujourd'hui sont très faciles à voyager, mais qui n'appellent pas le commun des mortels. On y a toujours un sentiment peut-être d'exploration, quelque chose en tout cas moi qui me ravit. Être seul, c'est un luxe aujourd'hui. Quand je dis seul, c'est pas seul tout seul dans la steppe, c'est seul avec les autres. Et ça, c'est devenu aussi qui aurait pu imaginer cela, que aujourd'hui rencontrer en voyage des gens et être seul face à eux, c'est presque devenu quelque chose d'exceptionnel.
Julien Blangras, quels sont vos pôles d'attraction? Pour Cédric Gras, c'est l'Eurasie, et vous?
Moi, c'est le monde, en fait. Moi, ma curiosité me pousse à aller voir un petit peu partout. Alors, il y a un petit côté... je pioche à droite, à gauche. Mais oui, je suis très heureux d'avoir voyagé, pas dans tous les pays du monde, évidemment, dans pas mal, mais d'avoir voyagé dans toutes les grandes régions du monde et d'avoir ainsi un panorama, même s'il est superficiel, assez global de notre planète.
Ismaël Khalifa, vos pôles d'attraction, c'est évidemment le Grand Nord.
Ah bah c'est les pôles justement, oui tout à fait, c'est bien dit. Moi c'est l'Arctique et l'Antarctique, mais justement quand on parle de se fondre dans le décor, ce sont des endroits où on peut le faire en partie, mais où on se confronte également à ses propres limites. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut devenir un Inuit blanc quand on est dans un village groenlandais, on comprend bien qu'on ne fait pas partie en fait de ce décor-là. Et qu'un enfant de 5 ans de toute façon sera toujours plus que nous, même si on reste 20 ans à apprendre les techniques entre guillemets. Donc moi c'est ça que j'aime en fait, c'est me fondre dans le décor. Mais c'est aussi éprouver mes limites, et en éprouvant mes limites, eh ben, je découvre ce que je suis, je réfléchis sur la société dont je viens. Je lui trouve des fois des choses très belles finalement, alors qu'on a tendance souvent à la critiquer en la comparant à ces peuples lointains. Et moi, ça me réconcilie finalement d'aller ailleurs, aussi avec nous. Et je suis souvent très content de rentrer en France quand je pars loin.
Essayons de nous fondre dans le décor si nous voyageons cet été. Merci à tous. La bibliographie de nos invités disponible sur franceinter.fr et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexandra Lévesque, le premier numéro inédit de Drôle de Ville pour une rencontre sera diffusé
le 7 août
sur France 5 à 20h50. Merci beaucoup. Demain, nous vous proposons quelques petits plaisirs de Grand Bien Vous Fasse à savourer cet été avec la grande famille de l'émission. N'hésitez pas à partager vos plaisirs de l'été au 01 45 24 7000. À la technique, aujourd'hui, Michel Bézikian qui déteste voyager, m'a-t-il dit hors antenne, et avec Maxime Ingrand.